Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur 48FM, il est 9h30 et ce journal vous est présenté par Adrien Takoufo. Bonjour Adrien.
Bonjour Romane. La journée mondiale de l'épilepsie se célèbre ce 13 février. Cette journée met en évidence les problèmes rencontrés par les personnes souffrant de cette maladie, leurs proches et leurs soignants. Explication du docteur Sadio, neurologue au CHU de Liège, dans ce journal. Bientôt, une nouvelle bourgmestre à la tête de la commune de Serein, Déborah Gérardon, remplace Francis Bécart à l'issue du conseil communal de ce lundi. Le changement du rythme scolaire pose problème chez les scouts de Liège. 17 000 jeunes cherchent toujours des endroits pour établir leur camp d'été. On en parle avec Romain Dujardin dans cette édition. Et puis on terminera avec l'ambiance du Super Bowl. La compétition de football américain a réuni les Liégeois devant le grand écran hier dimanche dans le carré. Une attention particulière est accordée aux personnes atteintes d'épilepsie ce jour, Luisa.
Oui Adrien, ce 13 février, on met en avant l'épilepsie dans plus de 130 pays. Cette maladie touche près d'1% de la population, ce qui représente environ 75 000 personnes en Belgique. Mais l'épilepsie, qu'est-ce que c'est ? Le docteur Sadio, neurologue au CHU de Liège, nous explique.
Mais l'épilepsie, c'est un désordre de l'activité électrique cérébrale. Donc à un moment donné, il y a des neurones qui deviennent hyperactifs, qui se synchronisent, et c'est à ce moment-là que peuvent se déclencher des signes et symptômes correspondant à ce qu'on appelle des crises d'épilepsie.
Ces signes et symptômes sont très variés. Même si cette maladie ne peut être diagnostiquée qu'après une voire plusieurs crises, l'épilepsie, dans la plupart des cas, se soigne assez bien.
Avec les traitements médicamenteux, il y a environ 70% des patients qui ne font plus de crise et qui peuvent mener une vie pratiquement normale. Il y a 30% des patients pour lesquels le traitement médicamenteux ne parvient pas à stabiliser la maladie et continue à faire des crises.
Est-ce qu'on peut vivre avec cette maladie, Luisa ?
Bien sûr, il y a malgré tout quelques contraintes. Traitement à vie, interdiction de conduire, mais aussi contrôles médicaux réguliers. Zoé, 22 ans, est épileptique. Il y a 4 ans, le diagnostic est tombé après plusieurs crises. Elle nous raconte.
Ouais, en fait, une fois par an, j'ai un rendez-vous de neurologue. Et en général, elle me fait un test avec les flashs de lumière pour voir si je fais une crise. Et c'est là que j'ai fait ma troisième crise quand j'avais 18 ans. À ce moment-là, elle a augmenté ma dose de médicaments. Mais depuis, j'ai refait le test et j'ai pas fait de crise.
Aujourd'hui stable, elle confie qu'au début de sa maladie, elle avait peur de ses crises.
C'est vrai qu'au début, j'avais peur, ouais. Et je marchais dans la rue, je me disais, mais si je fais une crise maintenant, je peux m'éclater la tête contre le trottoir et me faire très mal. Au final, ça va plus ou moins. J'y pense même plus la plupart du temps. Je vis presque normalement.
Pour plus d'informations sur cette maladie, rendez-vous sur le site internet de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie, ligueepilepsie.be.
Clap de fin pour Francis Bécart, le bourgmestre de Serein, cède son fauteuil à Déborah Gérardon ce lundi, Florine.
Oui, un conseil communal qui met un terme à 35 ans de politique sérésienne. Lui qui était devenu bourgmestre un peu par hasard après la démission forcée d'Alain Matteau en 2018. Un départ anticipé puisque Francis Bécart n'aurait dû raccrocher l'écharpe mayorale qu'en juin, mais des soucis familiaux et de santé le poussent à démissionner plus tôt que prévu. Le 20 mars, c'est donc Déborah Gérardon, actuelle échevine, qui deviendra officiellement bourgmestre de Serein. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste dans la Cité du Fer. À 36 ans, elle était deuxième en voie de préférence en 2018 et aurait donc déjà pu s'asseoir dans le fauteuil. Mais c'était sans compter l'entente difficile avec sa concurrente Laura Crapanzano, aussi candidate au poste. Maintenant, c'est donc objectif 2024 pour Déborah Gérardon. La future bourgmestre pourrait présider la liste PS, mais rien n'est acquis. La campagne électorale se jouera donc sûrement au coude à coude avec Laura Crapanzano.
Plusieurs animateurs et animatrices scouts sont toujours à la recherche d'un endroit pour établir leur camp à l'été 2023. L'entrée en vigueur de la réforme des rythmes scolaires occasionne l'indisponibilité des lieux habituels. Conséquence, 420 sections, soit 17 000 jeunes, ne savent pas encore où ils passeront leur camp. Romain Dujardin.
18% des camps qui se déroulent habituellement l'été ne sont pas encore sûrs d'avoir lieu, faute d'infrastructures d'accueil. La Fédération Scout observe depuis plusieurs années un manque d'endroits qualitatifs de camps, mais ce manque est accentué par la réforme des rythmes scolaires. Gilles Beckers, porte-parole de la Fédération des Scouts.
Les vacances à l'été 2023 débuteront uniquement le 7 juillet, donc il ne sera pas possible de partir en camp avant le 7 juillet. Ça veut dire que les quelques 400 camps qui partaient avant habituellement pendant la première semaine de juillet cherchent actuellement un endroit de camp qui peut les accueillir majoritairement pendant le mois de juillet. Le mois d'août étant très peu prisé par nos animateurs qui sont pour la plupart d'entre eux étudiants dans le supérieur.
René Houille-Makers, alias Tapir, est l'un des quatre chefs d'unité de la section scout de Ninan. Ces sections seront moins impactées car prévoyantes, mais il sera plus difficile d'échapper au côté spéculation étant donné l'offre trop petite par rapport à la demande.
Au niveau des prix de location des gîtes et des prairies, les prix frôlent la décence, il faut l'avouer. Nous, on a la chance d'avoir une unité qui se porte bien, ce qui va nous permettre d'aider, en tout cas cette année et l'année suivante, peut-être nos sections, mais tous les mouvements de jeunesse et toutes les unités scouts n'ont pas cette chance, évidemment.
Et lorsqu'il est trop tard pour la prévoyance, restent les zones frontalières qui peuvent constituer une solution, mais aussi d'autres pistes proposées par Gilles Beckers.
Il y a aussi une plateforme qui existe qui s'appelle SOS Camp et qui met en relation les propriétaires qui ont des endroits à proposer avec les groupes qui sont en recherche, qui visent à développer au maximum l'offre d'endroits de camp en vue de l'été 2023, puisque de notre côté, il est vraiment hors de question que ces 17 000 enfants ne puissent pas avoir accès à leur camp cet été.
En bref, à l'échelle nationale, le suspect de la tentative d'attentat terroriste au concours Miss Belgique, inculpé, est placé sous mandat d'arrêt. Le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Flandre-Occidentale, division de Bruges, a rendu la décision hier. L'homme de 46 ans avait été interpellé samedi vers 17h30 avec deux armes à feu et un gilet pare-balles. Pour l'avocat du suspect, Peter C. ne voulait pas commettre un délit. Il dit avoir apporté ses armes pour sa propre protection. Des perturbations sont à craindre sur les réseaux des bus en Wallonie demain mardi. Les organisations syndicales entendent rouler sur la piste d'action pour défendre le pouvoir d'achat des actions des syndicats chrétiens et socialistes. Plusieurs rassemblements sont prévus et des distributions de tracts aussi. Cette mobilisation pourrait avoir des conséquences selon la tech. Et les nouvelles à l'international avec Audrey. Une semaine après le drame en Turquie et en Syrie, le nombre de victimes à déplorer continue d'augmenter.
Oui, le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi dernier compte aujourd'hui 33 179 morts selon les derniers bilans officiels. Ce chiffre pourra encore augmenter selon l'ONU. C'est le cinquième séisme le plus meurtrier du XXIe siècle après notamment ceux de Haïti et de la Chine. La Belgique fait le bilan de ses ressortissants et avance dans la mise en place des aides humanitaires. Une nouvelle phase se met en place, la prise en charge d'un million d'habitants privés de logement.
Outre Atlantique, l'armée américaine a à nouveau dû intervenir suite à la détection d'un objet volant.
Un engin octogonal avec des cordes qui pendaient a été aperçu dans le ciel américain hier. C'est dans le Michigan, au-dessus du lac du Huron. Le président Joe Biden a ordonné, sur conseil du commandement militaire, d'abattre l'objet volant non identifié. Cet objet n'était pas une menace militaire sur le sol américain, mais aurait pu représenter un risque pour l'aviation civile. Au total, ce sont 4 objets volants abattus en moins de 10 jours. L'un d'entre eux avait été identifié comme un ballon espion chinois.
Nous restons avec vous, Audrey, pour la page des sports. Les Bulldogs de Liège ont remporté la Coupe de Belgique face à Herentals samedi soir.
L'équipe belge de hockey sur glace disputait en effet la 9e finale consécutive et la 7e d'affilée contre Herentals, leur grand rival dans le pays qu'ils avaient déjà vaincu l'an dernier à ce stade. Les Bulldogs l'emportent finalement 6-4 au terme d'une rencontre riche en buts et gardent une nouvelle fois la Coupe à la maison.
En football, les clubs liégeois ont été à la peine ce week-end.
Le Standard de Liège s'est incliné face à Courtrai 2-0 à domicile. Des buts de Vazinski et de Selemani qui auront eu raison des rouches, sans oublier l'expulsion de Konstantinos Laifis à la 83e minute. Toujours en football, le RFC, Liège a accroché le Patro Eisden, un but partout dans un match du haut de tableau. Un choc de la D1 amateur lors duquel les 100 et Marines s'en sortent bien, après avoir résisté aux assauts du Patro malgré l'expulsion du Liégeois Loemba en fin de match.
Encore du football, la nuit dernière avait lieu le Super Bowl, la finale du championnat de football américain cette fois-ci. Une rencontre qui opposait les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. L'événement connaît un succès international et quand ses fans liégeois, Laurent Grolls s'est rendu au Saloon, un bar qui diffusait le match en direct.
Le plus gros événement sportif américain de l'année attire beaucoup de monde et même à Liège, au Saloon dans le Carré, Chris a fait de la soirée du Super Bowl une véritable tradition.
Depuis 2015, donc en fait, moi j'ai toujours été fan de football américain parce que j'ai été un peu aux États-Unis et tout. Et donc du coup, quand on a ouvert ici le Saloon, on a vite vu une opportunité les dimanches soirs de passer tous les matchs en prenant l'abonnement NFL. Et donc le Super Bowl, c'est, c'est l'achèvement de la saison. Et c'est surtout le seul moment de la saison où on a vraiment du monde qui vient voir les matchs, quoi. Et donc voilà, c'est la 8e année. En comptant celle du Covid qu'on n'a pas pu faire. Quoi.
Le bar de la rue Damet connaît un véritable succès chaque année grâce à cet événement et pourtant, l'objectif n'est pas d'en dégager une marge conséquente.
C'est une soirée où nous, on essaye de vraiment faire la fête autour de l'événement. Donc du coup, on met quand même aussi, par exemple, la nourriture qu'on fait, on la fait au prix de revient. Donc on ne fait pas de bénéfices dessus. On fait une happy hour pendant 2 heures. On offre, y a des promos toute la soirée. Donc on fait un bon chiffre par rapport à un dimanche habituel. Maintenant, par contre, on n'est pas, c'est pas non plus le truc qui sauve le mois de février, par exemple, quoi.
À quelques heures du coup d'envoi, Chris avouait avoir un penchant pour l'une des deux équipes.
Moi, je suis pas objectif du tout. Je suis fan des Chiefs depuis plus de 10-15 ans que je suis. Donc du coup, je prie pour que les Chiefs l'emportent. Maintenant, les Eagles ont l'air méchamment en forme vu la saison qu'ils ont faite. Donc ça va être une sacrée bataille, quoi.
Et le résultat aura rendu heureux le patron du Saloon puisque les Kansas Chiefs l'ont emporté 38-35 lors d'un match considéré comme l'un des plus beaux Super Bowls de l'histoire.
9h41, c'est la fin de ce journal et ce petit clin d'œil à vous, aimables auditeurs. Vous êtes nombreux à accorder votre écoute attentionnée au programme de 48FM. Ça fait 29 ans que ça dure. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio qui se célèbre ce lundi, 48 fois, nous vous disons merci pour votre fidélité. Bonne journée sur cette antenne.